et les deux textes liturgiques de ce deuxième dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de l'apôtre Saint Paul aux Romains. Mes frères, tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'être unis de sentiments les uns avec les autres, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'affirme en effet que le Christ Jésus s'est fait le serviteur des circoncis pour montrer la fidélité de Dieu pour la réalisation des promesses faites à nos pères. Quant aux païens, qu'il glorifie Dieu de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pour cela, Seigneur, que je vous louerai parmi les nations et que je changerai la gloire de votre nom. Il est dit encore, réjouissez-vous, nations, avec son peuple, et encore, gentils, louez tous le Seigneur, peuple, glorifiez tous. Isaïe dit aussi, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour régner sur toutes les nations. En lui, les nations mettront leurs espérances. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi, afin que vous croissiez dans l'espérance, dans la force de l'Esprit Saint. Se lève pour l'Évangile, continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jean, ayant appris dans sa prison les œuvres du Christ, envoya deux de ses disciples lui dire, « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris. Les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Bienheureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent, mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu avec mollesse ? Non, ce... qui sont vêtus avec mollesse, habitent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il a été écrit, voici que devant votre face, j'envoie mon ange, qui préparera la voie devant vous. Veuillez vous asseoir. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Cette semaine, je vais aller occuper du déménagement de ma vieille maman. Donc, il n'y aura que deux messes cette semaine. Je serai là pour l'Immaculée Conception, la grande fête de la Sainte Vierge le 8 décembre, donc mercredi, à messe à 10h, également samedi à 10h. Donc messe mardi et samedi à 10h, dimanche prochain bien sûr, messe à 10h. Attention aussi, mardi c'est la vigile de l'Immaculée Conception, c'est jour de jeûne et abstinence. Donc jeûne, vous rappelle, c'est un repas par jour pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, et abstinence, pas de viande. Je vous rappelle aussi les retraites, ça commence à se remplir lentement. Donc vous avez le papier à l'entrée de la chapelle. J'ai encore une place pour la semaine sainte et une ou deux places pour la retraite du mois de mai. Les autres, il y a des places. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, pour ceux qui veulent venir. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais revenir bien sûr sur cette magnifique fête de l'Immaculée Conception, mardi. La fête de l'Immaculée Conception est certainement une des plus grandes fêtes de notre Sainte Vierge Marie. Je vous ai déjà expliqué que tous ces privilèges de Notre-Dame découlent du dogme central concernant la Sainte Vierge, la maternité divine. C'est parce qu'elle est mère de Dieu que Dieu a voulu préserver notre Sainte Vierge Marie de toute tâche du péché, et donc du péché originel. Il faut comprendre que souvent, c'est une erreur que beaucoup de nos fidèles font, ils pensent que le dogme de l'Immaculée Conception a été établi à partir de l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes. Ce n'est pas du tout le cas. Une apparition même reconnue par l'Église, comme l'apparition de Notre-Dame de Lourdes en 1858, c'est en quelque sorte une aide pour conserver la foi. Mais ce n'est pas la source du dogme de foi. L'Église croit en l'Immaculée Conception, non pas parce que la Sainte Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette en 1858, mais parce que 4 ans auparavant, le pape Pie IX a décrété le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. C'est d'ailleurs extraordinaire que 4 ans plus tard, le ciel, le bon Dieu, donc du haut du ciel, a en quelque sorte réaffirmé le dogme qui avait déjà été défini par le pape Pie IX, par l'Immaculée Conception, quand notre Sainte Vierge Marie a dit à Sainte Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Je vous ai souvent dit que pour connaître les parties de la foi qu'il nous faut surtout défendre, il faut voir quelles sont les parties de la foi qui sont les plus attaquées. Et l'Immaculée Conception, c'est une de ces choses. Regardez en France ce qui s'est passé, vous n'êtes pas très au courant, les campagnes des évêques modernistes pour supprimer le caractère d'obligation de la fête de l'Immaculée Conception. C'est plus une fête d'obligation en France. Ils ont fait le même travail aux États-Unis. Pourquoi il y a cette haine contre l'Immaculée Conception? Pour deux raisons, faut bien les comprendre. La première de ces raisons, c'est que l'Immaculée Conception rappelle le péché originel. Notre Sainte Vierge Marie est Immaculée Conception parce qu'elle a été conçue sans le péché originel. S'il a été conçu sans le péché originel, de façon exceptionnelle, ça veut dire que tous les autres hommes ont le péché originel. Et ça, le monde moderne n'en veut pas. Le monde moderne ne peut pas supporter l'idée même du péché originel, parce que qui dit péché originel dit que l'homme naît avec le péché. Et donc, si l'homme naît dans le péché, ça veut dire qu'on a besoin d'un rédempteur, ça veut dire qu'on a besoin de sacrements de sacrements de baptême, sacrements de pénitence pour lutter contre le péché, les conséquences du péché. Or, depuis la révolution de 1789, il paraît que les hommes sont devenus bons. Alors, évidemment, le péché originel, ça gêne. Et donc, oui, comme quoi, il faut se rappeler absolument catégoriquement le dogme central de la foi catholique, le dogme du péché originel. Tous les hommes sont nés avec la marque du péché originel, sauf notre Sainte Vierge Marie et bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle le monde moderne lutte tant contre l'Immaculée Conception, c'est qu'Immaculée Conception, ça entraîne la notion de pureté. Immaculée. Hein, ça vient du latin macula. Macula, c'est la tache. Immaculée, sans tache. Or, le monde moderne n'a qu'une idée en tête. Tout salir. Salir les âmes, salir les familles, salir la société, mettre l'impureté partout. Alors évidemment, encore une fois, l'Immaculée Conception qui rappelle la conception immaculée de notre Sainte Vierge Marie, puisqu'elle est sans péché originel, elle a donc, elle est parfaitement pure, elle est vierge, vierge et mère, vierge avant, pendant et après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le monde moderne, encore une fois, ne veut pas de toutes ces choses-là. Vous voyez comme c'est très important à comprendre. L'Immaculée Conception a une importance fondamentale parce que ça nous rappelle des vérités absolument essentielles qu'il faut bien mettre dans notre esprit. La Très Sainte Vierge Marie est un chef de guerre. Il ne faut pas imaginer simplement la Très Sainte Vierge Marie comme une femme toute doucereuse, toute gentille. Elle est mère, c'est sûr, mais aussi un chef de guerre. Et l'Église, pour prouver cela, utilise ce qu'on appelle le proto-évangile. Le proto-évangile, c'est un résumé de toute la foi catholique qui a été donné tout à fait au début de l'histoire des hommes. Lorsqu'Adam et Ève ont été roulés par le démon, avec le péché originel, vous connaissez cette histoire, Dieu a fait une prophétie sur la Très Sainte Vierge Marie. Et il n'y a pas les moins mortes. Il a dit au démon, elle t'écrasera la tête. Ipsa conteret. Elle, ipsa en latin, féminin. C'est-à-dire que dans l'Église moderne, ils ont changé le genre en disant, ce n'est plus elle t'écrasera la tête, dans l'Église moderne, c'est il t'écrasera la tête. Et donc ils vont dire, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est elle, c'est un féminin. Notre Seigneur Jésus-Christ va écraser la tête du démon en utilisant notre Sainte Vierge Marie, précisément parce qu'elle est chef de guerre. Et donc le rôle de notre Sainte Vierge Marie, c'est d'écraser la tête du démon. Or, le monde moderne n'a qu'une idée en tête, travailler avec le démon. Ce qui explique la haine du démon contre l'Immaculée Conception. La deuxième phrase qui est très importante, qu'on retrouve encore dans ce proto-évangile du livre de la Genèse, tout à fait au début de l'histoire de l'humanité, dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, il est dit que c'est Dieu qui parle au démon et lui annonce justement que cette femme qui va écraser sa tête va diviser. La Très Sainte Vierge Marie est quelqu'un qui divise. Elle va diviser le monde en deux groupes. Les enfants de la Très Sainte Vierge Marie, les enfants du monde. Je mettrai une inimitié entre toi, Dieu parle au démon, et la femme. Femme avec un grand F. Entre tes enfants et ses enfants. Donc toute l'histoire du monde, ça qu'il faut arriver à comprendre, est résumé dans ce combat gigantesque entre ceux qui suivent la Très Sainte Vierge Marie, les enfants de la Très Sainte Vierge Marie, qui sont les enfants de l'Église catholique, et les enfants du démon. Et le texte utilise un mot très fort, inimicitias, en latin, c'est une haine, on peut traduire ça par... C'est beaucoup plus qu'un manque d'amitié, c'est la haine farouche, formelle, éternelle entre les enfants de la Très Sainte Vierge Marie et les enfants du démon. Et donc tous ceux qui essayent, ça c'est le monde moderne, c'est l'Église de Vatican II, tous ceux qui essayent de réunir ces deux mondes, c'est exactement le travail que fait actuellement Bergoglio à Rome, c'est clair et net, il veut réunir ces deux mondes. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on arrête de se battre. Ils oublient justement ce texte. Cette haine est irréconciliable. Tant que Dieu existera, et il est là pour toujours parce qu'il est éternel, cette haine sera là. Ça ne veut pas dire qu'il faut haïr les gens qui pensent différemment, les gens qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous devons prier pour eux, obtenir leur conversion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a cette contradiction viscérale entre ceux qui pensent comme la Très Sainte Vierge Marie et ceux qui pensent comme le monde. Ceux qui pensent que la Très Sainte Vierge Marie défend les droits de Dieu et les devoirs de l'homme à l'égard de leur Créateur, et ceux qui suivent le monde moderne, qui suivent le démon, au contraire, défendent les droits de l'homme et oublient complètement leurs devoirs par rapport à Dieu. Donc d'un côté, les enfants de la Très Sainte Vierge Marie suivent la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, toutes les grandes vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, les vertus cardinales de prudence, de justice, de force, de tempérance, suivent aussi les vertus de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Et de l'autre côté, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Comment voulez-vous essayer de réunir deux choses qui sont totalement, absolument, irrémédiablement irréconciliables? C'est impossible. Et donc, quand on essaie de faire croire aux gens qu'on peut réunir ces deux choses, ces deux groupes, ces deux conceptions totalement différentes de la vie, non seulement ça va contre la foi, c'est une ânerie de première. Une ânerie de première parce que Mgr Lefebvre avait une expression très forte. J'aime beaucoup son expression. Il disait, quand on essaie de marier deux personnes qui ne sont pas supposées être ensemble, au lieu d'avoir des enfants, on a des bâtards. Ce qu'il avait, c'était un peu fort comme terme, mais c'est exactement ça. Si vous essayez de réunir ensemble ceux qui veulent notre Seigneur Jésus-Christ comme roi de la civilisation, roi de tout ce qu'ils font, et ceux qui veulent le démon comme roi, bien évidemment, on ne peut rien avoir. Rien ne se construit, tout s'écroule. Et comme ces choses sont absolument capitales. Donc, si vous voulez, on est obligé de faire un choix. Il y a un combat terrible avec un choix à faire. Soit on suit l'Immaculée Conception, on est attiré par sa pureté notamment. La Très Sainte Vierge Marie est pure par nature, puisqu'elle n'est pas marquée par le péché originel. Soit, au contraire, on suit l'impureté du monde moderne. Nous, on peut suivre on peut pas être pur par nature, c'est impossible. On sera pur par grâce. Donc on va avoir besoin de la confession, on va avoir besoin de la Sainte Communion, on va avoir besoin de tous ces sacrements pour arriver à extirper le démon qui n'a qu'une idée en tête, rentrer dans notre système, rentrer dans notre âme, dans notre esprit, pour salir, corrompre, parce qu'il sait très bien que dès que la saleté du monde moderne, l'esprit du monde moderne rentre dans notre âme, le démon rentre, et si le démon rentre, évidemment, notre Sainte Vierge Marie s'en va. Et si la Très Sainte Vierge Marie s'en va, comment on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni? Si la Très Sainte Vierge Marie s'en va, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va quitter. Vous voyez, comme toutes ces choses sont absolument fondamentales. Alors, soit on suit encore une fois notre Seigneur Jésus-Christ et sa mère, soit on suit le monde moderne. C'est quoi le monde moderne? Rappelez-vous, il faut revenir constamment à ces choses-là. Rappelez-vous les mensonges du démon, tout simplement. Vos yeux s'ouvriront, vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux. Et parce que vous deviendrez comme de Dieu, vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vous qui allez décider ce qui est bien, ce qui est mal, parce que le propre de Dieu, c'est de pouvoir décider ce qui est bien, ce qui est mal. Donc le démon nous fait croire que l'homme va pouvoir décider par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qu'on appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est la base de toute la révolution dans l'Église. À la base de tout ça, à la base de Vatican II, c'est la liberté de conscience. Si on accepte la liberté de conscience, c'est tout l'édifice catholique qui s'écroule. Voilà pourquoi le pape Pie IX, qui est celui justement qui est le pape de l'Immaculée Conception, c'est lui qui a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception en 1854. 10 ans plus tard, en 1864, il va condamner solennellement la liberté de conscience en disant que c'est une liberté de perdition, une insanité. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, le baptême, ça sert à quoi alors? Le baptême enlève le péché originel, mais n'enlève pas les conséquences du péché. Le péché originel est tellement profond dans notre âme, fait, si vous voulez, un travail de sape tellement profond qu'il reste des conséquences. Il ne faut pas les oublier ces conséquences. Je sais que je vous en parle souvent, mais c'est fondamental à mettre dans nos esprits. C'est la base de toute éducation qu'on doit donner à nos enfants. Nos enfants ne sont pas des petites merveilles irresponsables. Même après le baptême, pourquoi? Parce que les puissances de nos âmes restent sous la coupe du démon, au moins en partie. Il va y avoir, pour l'ignorance qui va attaquer l'intelligence, la volonté va être attaquée par la malice, la force par la faiblesse, et le concupiscible par la concupiscence. Et en plus de ça, il va y avoir la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair, la concupiscence de l'orgueil. Et il va falloir se battre contre tout cela. Se battre contre tout cela, donc contre la concupiscence de l'orgueil, il faut la prière. Contre la concupiscence des yeux, il faut l'esprit de pauvreté. Et contre la concupiscence de la chair, il va falloir l'esprit de chasteté. Donc notre vie sur la terre est un combat. Il ne faut pas oublier ça, c'est ça qu'il va falloir inculquer à nos enfants. Inculquer à nos enfants qu'on est des hommes de guerre. Parce qu'on est en guerre contre une espèce de rouleau compresseur qui veut tout détruire. Regardez ce qui se passe. Ouvrez la porte et regardez ce qui se passe dehors. Vous voyez, alors, vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On a un tout petit groupe de rien du tout. Réponse, Dieu est tout puissant. Je vous donnais l'exemple magnifique que nous donnait toujours Mgr Lefebvre, la formation qu'il nous a donnée. Il nous a souvent expliqué ces choses-là. Il nous dit, on est comme une petite souris devant un rouleau compresseur, qui va arrêter le rouleau compresseur. Une petite souris qui est grande comme ça, c'est un énorme rouleau compresseur dans la souris qui a tout écrabouillé. Et Mgr Lefebvre disait, il suffit de mettre un tout petit caillou entre deux engrenages du moteur de la rouleau compresseur et tout s'arrête. Ça veut dire quoi? On est la petite souris. Et cette petite pierre, c'est qui? Cette petite pierre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le monde moderne ne peut pas supporter l'idée de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Bergoglio à Rome, c'est clair et net, c'est malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça, fait tout pour détruire dans l'esprit des gens la nécessité du baptême. Parce qu'il sait les conséquences du baptême. Voilà pourquoi l'Église moderne enseigne à qui veut l'entendre que tous les hommes sont des enfants de Dieu. Tous les hommes sont des créatures de Dieu, mais tous les hommes ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que si tous les hommes sont des enfants de Dieu, à quoi ça sert le baptême? Si tous les hommes sont des enfants de Dieu, parce que c'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, parce que le baptême nous donne un caractère qui fait de nous des enfants de Dieu, si tous les hommes sont des enfants de Dieu, nous n'avons plus besoin de baptême. S'il n'y a plus besoin de baptême, c'est qu'il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus besoin de péché, plus besoin d'église, plus besoin de la sainte communion, plus besoin de la pénitence, tout s'écroule. Vous voyez comme il est important de nous accrocher absolument de toutes les forces, je dirais, de notre âme, de nous accrocher à la fois à l'existence du péché originel et à la fois dans le fait que la très sainte Vierge Marie a été préservée du péché originel. Le bon Dieu n'a pas voulu que sa mère, qui était celle qui avait été choisie pour lui donner sa nature humaine, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme, il n'a pas voulu que la très sainte Vierge Marie soit même touchée par les conséquences du péché originel. Donc elle est immaculée conception. C'est la seule qui est comme ça. Bien sûr, son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est Dieu. Et voilà pourquoi il nous faut, mes bien chers frères, nous accrocher à cette doctrine et mettre toujours la très sainte Vierge Marie avec nous. On dit, et c'est sans doute très vrai, je vous l'ai souvent déjà dit, que le démon, avant de rentrer dans une âme, il regarde toujours, il met les pieds. Justement parce qu'il n'a pas oublié la prophétie qu'il regarde. Elle t'écrasera la tête. Et donc, on dit qu'avant que de rentrer dans une âme, le démon commence par regarder par la fenêtre pour voir si la Sainte Vierge est là. Et s'il voit que la très sainte Vierge Marie est dans notre âme, croyez-moi, il ne rentre pas dans l'âme. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. C'est un peu, je donne une comparaison, quand vous tombez sur le témoin de Jéhovah, qui veut qu'une seule chose, c'est mettre la confusion dans votre âme. Il ne cherche pas à se convertir à la foi catholique, il cherche à mettre la confusion dans votre âme. Vous voulez vous en débarrasser? Il dit, voilà, on va discuter, on va d'abord dire ensemble un « Je vous salue Marie », part au courant. Il ne supporte pas de dire un seul « Je vous salue Marie ». Parce que la haine de la très sainte Vierge Marie est le premier signe par lequel on peut voir que quelqu'un a quitté complètement l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tant que quelqu'un garde La dévotion entre Sainte Vierge Marie, encore un espoir. Il y a eu des retours de gens qui ont promis à leur mère, avant de tout envoyer promis à vivre dans le monde avec les esprits du monde, qui ont promis à leur vieille maman, je dirai 3 jours au Sainte Marie tous les soirs. Maintenant qu'ils gardent ça, ils gardent quelque chose. Il y a une possibilité de rattraper ces gens-là. Alors, mais bien, chers frères, utilisons ce temps de l'Avent. Ce n'est pas pour rien que l'Immaculée Conception arrive pendant le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, c'est quoi? C'est un temps de préparation, un temps de pénitence pour préparer notre âme à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quelles sont les pénitences qu'il nous faut faire? L'Avent, ce n'est pas comme le carême. Il y a 2 temps de pénitence. L'Avent pour préparer Noël et le carême pour préparer la fête de Pâques. Pendant l'Avent, l'Église catholique n'impose pas le jeûne comme pendant le carême. Il y a des jeûnes pendant l'Avent. Il y a, je vous l'ai dit, le 7 décembre, vigile de l'Immaculée Conception. Il y a l'avant-veille de Noël, le 23 décembre, puis mercredi, vendredi, samedi des quatre temps, qui arriveront non pas cette semaine, mais après le troisième dimanche de l'Avent. Je vous le rappellerai dimanche prochain. Voyez pourquoi cette pénitence est nécessaire? Parce que la pénitence ouvre l'âme. On a la porte de notre âme, si vous voulez, qui est tout à peine entrouverte, parce qu'on a bien trop peur que notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans notre âme et fasse tout changer à l'intérieur. Et donc, la pénitence écarte l'âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer. Bon, il frappe à la porte de notre âme. Il ne va pas rentrer avec un pibiche, hein. Ce n'est pas un cambrioleur. Il frappe. Il attend qu'on ouvre. Et quand on commence à faire pénitence, d'une façon ou d'une autre, eh bien tout de suite, la porte s'ouvre et bon Dieu peut rentrer. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ sur la pénitence, hein. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Il n'a pas dit, si vous ne faites pas pénitence, vous aurez plus de mal. Vous périrez tous. Personne ne peut se sauver sans la vertu de pénitence. Alors, quelles sont les 3 pénitences traditionnelles? Eh bien, les pénitences traditionnelles sont justement celles qui vont s'opposer aux 3 moyens de pénétration dans notre âme du démon. Quand le démon veut pénétrer dans notre âme, il utilise 3 fissures, toujours les mêmes. Il va utiliser soit la concupiscence des yeux, soit la concupiscence de la chair, soit la concupiscence de l'orgueil, ou les deux ensemble, ou les 3 ensemble. Et donc, il va falloir pratiquer des pénitences sur ces 3 choses. Contre l'orgueil, qu'est-ce qu'on va utiliser comme pénitence? La prière. Bien que strictement parlant, la prière ne soit pas une pénitence. On prie, parce que quand on prie, on se met à genoux. On se met à genoux, donc on s'humilie devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le démon ne peut pas supporter l'humiliation. Et donc, dès qu'on se met à genoux, dès qu'on commence à s'humilier pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, en reconnaissant qu'il est le Créateur, donc en reconnaissant implicitement qu'on est créature, qu'on n'est rien du tout devant le bon Dieu, tout de suite, l'âme s'ouvre. Et le bon Dieu peut travailler justement pour détruire cet orgueil qui empêche le bon Dieu de rentrer dans l'âme, précisément par la vertu de prière. Dès qu'on commence à prier, tout de suite, le démon s'en va. Il ne peut pas supporter la prière. Il ne peut pas supporter quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin du bon Dieu. Voilà pourquoi, pendant le temps de l'Avent, n'oubliez pas votre chapelet tous les jours. Une protection extraordinaire. Après, il va falloir aussi protéger la deuxième fissure. Empêcher le démon de passer par la deuxième fissure. La deuxième fissure, c'est quoi? C'est la concupiscence des yeux. Comme on lutte contre la concupiscence des yeux, on va lutter contre la concupiscence des yeux avec l'esprit de pauvreté, donc avec l'aumône. C'est pour cela que l'Église catholique, traditionnellement, demande en général, pendant les temps de pénitence, le denier du culte, qui est l'aide que les fidèles donnent à l'Église pour payer les prêtres, parce que les prêtres n'ont pas de salaire, mais pour vrai couvrir les frais que peuvent avoir les prêtres. En France, par exemple, traditionnellement, le denier du culte, c'est pendant le carême, précisément parce que c'est un temps de pénitence. Donc l'aumône est utilisée cette fois-ci pour colmater la fissure de la concupiscence des yeux. Et enfin, il faut colmater la troisième concupiscence, la concupiscence de la chair. Et celle-là, on la colmate par le jeûne. Le jeûne renforce l'âme contre les tentations d'impureté. Donc il y a ces trois pénitences traditionnelles, l'aumône, le jeûne, la prière. Les anciens insistaient toujours beaucoup là-dessus. Et si je pratique ces pénitences, à ce moment-là, je vais en quelque sorte couper les racines de la concupiscence. Et l'âme va pouvoir s'élever vers le bon Dieu. On dit que les temps de pénitence nous aident justement à élever l'âme vers les réalités divines. Il y a un combat. Notre Seigneur Jésus qui tire vers le haut et le démon qui tire vers le bas. Notre Seigneur qui tire vers le haut, vers les réalités du paradis, pour nous obliger à garder la tête fixée vers le ciel, vers le paradis. Et le démon, au contraire, qui ne cherche qu'une seule chose, c'est nous tirer vers le bas, dans la boue du péché, dans la boue du monde moderne. Alors n'oubliez pas une chose. Notre Seigneur Jésus-Marie a promis, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Attention, elle tisse le futur. Elle n'a pas annoncé un triomphe tout de suite. Elle n'a pas annoncé que le démon, le pouvoir du démon sera complètement détruit ici-bas. Parce que si le pouvoir du démon était complètement détruit ici-bas, ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que le paradis serait ici-bas. Le paradis n'est pas pour maintenant, il y a pour après. D'abord un combat. Donc mon cœur immaculé triomphera à la fin du combat. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Nous avons l'aide de la très sainte Vierge Marie. Mettez-la dans votre cœur pour justement vous aider. Donc priez bien votre chapelet tous les jours. C'est une espèce de protection extraordinaire que nous a donnée notre Sainte Vierge Marie. Priez l'Immaculée Conception. Demandez-lui qu'elle vous aide à augmenter la foi dans toutes ces grandes vérités. Nous rappeler que nous avons les conséquences du péché originel en nous. Et que donc il faut prier, savoir se mettre à genoux, il faut savoir pratiquer ces grandes vertus théologales, morales et cardinales pour justement lutter contre les conséquences du péché originel. Et notre Sainte Vierge Marie sera toujours avec nous. Elle ne nous abandonnera pas. Même si, c'est vrai, extérieurement, on est un tout petit groupe. Mais rappelez-vous ce que dit notre Seigneur. À la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Il l'a dit expressément. Et il a parlé d'un petit troupeau. Un des plus grands cardinaux, un des plus grands évêques de l'Église catholique, cardinal Pie, qui était au XIXe siècle, il a fait cette prophétie extraordinaire. Un temps viendra où l'Église catholique allait être réduite, sera réduite à une dimension domestique. Ça veut dire quoi ? Une famille par-ci, une famille par-ci, une famille par-là, qui garde la foi. Nous nous trouvons, bien chers frères, un peu comme les apôtres qui sont envoyés par notre Seigneur. Allez, baptisez, prêchez, dans le monde entier. Celui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Vous prononcez cette phrase devant un moderniste, il attrape des boutons sur le bout du nez tout de suite. Ils ne peuvent pas supporter cette phrase. C'est pourtant la pure vérité. Allez, baptisez, prêchez. Le bon Dieu n'a pas dit, vous allez convertir le monde entier. Il a dit d'aller prêcher, baptiser et essayer de convertir. C'est Dieu qui convertit. Et au début, les apôtres ont rencontré d'énormes difficultés. Il fallait voir l'état du monde païen, du monde des barbares. On est encore pire aujourd'hui, c'est certain. C'est encore pire que l'état des barbares. On se retrouve un peu dans la même situation. Le bon Dieu a envoyé les apôtres. Ils ont tous passé au casse-pipe. Hein. Ils sont tous morts martyrs, sauf Saint Jean. Mais à nous, c'est un peu pareil. Il y a des différences essentielles. Le bon Dieu avait donné aux apôtres le pouvoir des miracles. Moi, je n'ai pas le pouvoir des miracles, et vous, sans doute, non plus. Et deuxième chose, c'est qu'à l'époque, il y avait un pape. Le bon Dieu a permis que nous vivions dans une époque où nous sommes orphelins d'autorité. Et puisque nous sommes orphelins d'autorité, Dieu est obligé de nous donner des grâces supplémentaires. Avouez quand même, je vais terminer avec cela, avouez quand même que c'était nettement plus facile de sauver son âme quand on avait un Saint-Louis comme roi de France. Maintenant, c'est nettement plus difficile avec un Macron comme président à la place de Saint-Louis. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, s'il était plus facile de sauver son âme au Moyen-Âge, Dieu qui sait que nous vivons en 2021 va nous donner en 2021 plus de grâce, parce qu'on a besoin de plus de grâce que ceux qui vivaient au Moyen-Âge, où il y avait l'union de l'Église et l'État. L'Église était absolument partout pour aider les âmes à se sauver. Alors, ne nous décourageons pas et plaçons toute notre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ et en sa très sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.